Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent. Je suis Marc Landry, votre humble serviteur, et nous sommes toujours avec notre invitée Marlène Lizy, experte en ressources humaines. Et cette fois-ci, nous allons aborder les questions touchant à la rédaction du résumé, du CV et aussi au recrutement. Ok, je prends plaisir à te suivre et à lire tes posts journaliers sur LinkedIn, et je pense que tu donnes des conseils assez poignants en ce qui concerne comment rédiger un résumé et autres. Donc, la question que je peux te poser aujourd'hui, c'est de te demander comment rédiger un CV, quelles sont les erreurs que nous devons éviter dans le cadre de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, devons-nous ajouter une photo, devons-nous mettre les contacts de nos recommandations, devons-nous mettre notre statut marital, devons-nous mettre notre âge, qu'est-ce qu'il faut mettre dans un CV version ivoirienne?
Ok. Wow. Là, quand je commence à parler de CVL, les lettres de motivation, je m'arrête. J'espère que je vais être bref, pas mon fort, surtout quand on parle de ressources. Ok. Déjà, moi, je déconseille aux gens de mettre leur âge. Ça, c'est vraiment. Quand j'ai commencé à travailler en Côte d'Ivoire, j'étais choquée de voir des CV avec l'âge. Et je me suis dit, non, les recruteurs et tout. Je dis, moi, je travaille en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. J'ai jamais mis mon âge sur mon CV. Donc, ça veut dire que si vous avez les compétences, le dernier de mes soucis, ça va être de connaître votre âge. Voilà. Je déconseille aux gens de mettre leur âge. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas dire je déconseille sans le dire. L'âge est un gros facteur de discrimination. Certaines personnes, en fonction de leur sensibilité, parce que dans le recrutement, il y a notre sensibilité, il y a notre éducation, il y a notre culture. Moi, j'entends des personnes vous dire, ah, elle n'a que 30 ans, elle ne peut pas être dans le CODIR, elle ne peut pas être dans le comité de direction, elle ne peut pas, même si elle a les compétences, même si elle a commencé à travailler à partir de 20 ans, ils sont bloqués là-dessus, ils se disent, oh, elle a 30 ans, ils mettent votre CV de côté.
Wow, c'est une
Oui, il y en a,
discrimination.
oui, c'est une discrimination, mais bon, ils discriminent, vous n'êtes pas devant eux, quoi, donc ils se disent ça, vous ne saurez jamais. Parce qu'ils expliquent que pour avoir un certain poste, il faut avoir un certain niveau de maturité et ils rappellent. Il rattache la maturité à l'âge. Il y a certaines personnes qui vont vous dire pourquoi il a 35 ans et depuis là, il n'a jamais été en position de management. Ça veut dire qu'il n'est pas si bon. Encore une fois, vous voyez une réflexion qui discrimine. Alors que vous mettez votre compétence, personne ne connaît votre âge. On prend la peine à cause de vos compétences de vous convoquer en entretien. Et à la suite de ça, si vous faites une brillante prestation, votre prestation va combattre les préjugés. Alors que si vous mettez l'âge, vous n'aurez même pas eu l'occasion de venir faire une brillante prestation.
C'est clair.
Prenons le cas du statut marital. Moi, je dis toujours, je pense que depuis que je suis active sur LinkedIn, c'est avant, c'est, je crois, il y a 2 jours seulement que j'ai mentionné le fait que j'étais mariée. Ça, franchement, pour vous dire, ce n'est pas important au en fait. Encore une fois, vous allez entendre, je vous assure, il y a des réflexions. Et dans les sociétés pas sérieuses, vous allez entendre des réflexions du genre célibataire sans enfant. Ça veut dire qu'ils viennent de se marier, c'est une femme. Là, c'est un poste à responsabilité. Au bout d'un an, elle va nous enchaîner les enfants. Non, ce n'est pas possible. On peut leur en vouloir. Mais en vérité, ils vont se dire, une femme qui est sans enfant, évidemment, elle a envie de faire un enfant une fois qu'elle a, elle a la stabilité.
Ça, c'est clair.
C'est clair. Alors que si vous ne mettez pas votre statut marital, on va pas être en train de se dire, elle a un enfant, elle n'a pas un enfant, elle se marie, elle ne se marie pas, non, machin et tout. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire une fois, moi, je ne veux pas de femmes parce que le souci de procréer des femmes, ça me dérange. Mais j'étais choquée. J'ai dit, mais les femmes, elles ne font pas les enfants sans les hommes, quoi. Je suis désolée. Bon,
C'est
bref.
clair, elle ne faut pas ça seule, en fait.
Pour vous dire, donc, je déconseille aux gens de mettre l'âge, de mettre le statut marital. La photo, ça dépend. Je conseille aux gens vraiment d'investir dans leur photo professionnelle. Je dis, c'est une photo que vous pouvez utiliser tout le temps. Parce qu'on fait des CV tout le temps, à part si vous avez un certain niveau d'expérience et puis votre expérience parle pour vous, on fait toujours un CV. Donc, investissez dans votre photo, faites une photo professionnelle. Concernant le CV, quelles sont les erreurs à éviter? Ce que je veux dire aux gens, c'est que le CV, c'est votre carte d'identité. Le CV, c'est la première barrière que vous êtes qui. C'est la première barrière entre vous et votre futur emploi. Ne faites pas un CV à la légère. Faites quelque chose de lisible. Donc, le conseil, c'est vous avez moins de 10 ans d'expérience sur une page, un CV sur une page, si vous avez plus de 10 ans, un CV de 2 pages. Si vous travaillez dans l'informatique, dans la gestion de projet, ça, c'est un autre type de CV. Donc, c'est même plus un CV. C'est plutôt un CV en mode projet pour parler de vos projets ou ça, c'est autre chose. Mais le CV classique, c'est 1 page, maximum 2 pages. Ensuite, un CV, c'est vos informations d'identité. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse email. Prenez la peine de mettre une adresse email qui fonctionne et un téléphone auquel vous décrochez, même quand vous ne connaissez pas le numéro. Depuis que je suis en Côte d'Ivoire, je m'arrache les cheveux des gens qui postulent et qui ne répondent pas à des numéros de téléphone qui ne... Vous appelez, quand je suis contente, j'envoie un SMS. Je mets mon nom, je mets la société à laquelle qui travaille. Et ils rappellent, ça fait 2 jours que je... Quand tu fais ça, à part vraiment si tu es une PM, je te blacklist. Parce qu'on ne peut pas postuler. Vous ne connaissez pas le numéro de téléphone d'Orange. Vous ne connaissez pas le numéro de téléphone du recruteur d'Orange, du recruteur de Société Générale, du recruteur de BNP. Mais comment on peut se permettre le luxe de ne pas décrocher un numéro de téléphone qu'on a mis sur un CV?
Franchement.
C'est la petite, mais ils le font. Hein. C'est la petite parenthèse. Donc, vos informations d'identité. Ensuite, vous avez votre photo. Vous avez... Je vois des gens mettre leur quartier, leur adresse. Je dis le... L'adresse, ça dépend. Vous avez des sociétés qui sont en zone industrielle près de Yopougon, vers Dabou, machin et choses. Vous habitez à Rivera Palmeret ou à Faya, je ne sais pas trop. Quand on calcule le trajet, on vous élimine parce qu'on se dit « Ah, ce gars-là, vraiment, c'est trop
long. » Il sera toujours en retard.
Il ne sera jamais à l'heure.
Voilà. Mettez la commune, mettez Abidjan. Si vous postulez pour une entreprise qui a son siège social à Yamoussoukro, mettez Yamoussoukro parce que vous êtes mobile à Yamoussoukro. Mettez que vous êtes mobile, mais bon, voilà, ça dépend. Ensuite, dans le corps même du CV, vous allez voir, j'aime bien, en tout cas à Abidjan, les gens le font très souvent, ce qu'ils appellent domaine de compétences ou compétences clés. Vous faites un volet compétences clés où vous, mais quand on dit compétences clés, c'est des compétences qui sont en rapport avec le poste auquel vous postulez. C'est-à-dire, si vous postulez pour une offre, pour être chef de projet IT, excusez-moi, vos expériences en recrutement ne nous intéressent pas. Donc, la partie compétences clés, c'est pour faire un focus sur les compétences qui sont en rapport avec le poste. Ensuite, vous faites un volet expérience professionnelle. Donc, expérience professionnelle, ce sont les expériences que vous avez acquises dans les entreprises où vous êtes passé. Je conseille aux gens de mettre le nom des entreprises en gras, en couleur, pour que ce soit visible. Si vous êtes dans une société qui fait partie des Big Four en audit, il faut que ce soit visible. Si vous êtes dans une société super connue, vous travaillez chez Orange, tout le monde connaît Orange, en tout cas dans le monde francophone, mettez Orange en gras. Si vous travaillez, je ne sais pas trop où, mettez. Par contre, si vous travaillez dans des sociétés qui ne sont pas très connues, vous mettez entre parenthèses le nom de la société, le nombre d'employés, parce que les gens sont friands de grosses structures, plus de 4000 employés, vous mettez le secteur de l'entreprise. Voilà. Donc, un grand volet expérience professionnelle. Vous pouvez le faire de façon chronologique ou de façon anti-chronologique. N'oubliez pas de mettre les années. N'oubliez pas de mettre, si vous ne mettez pas les années, mettez le nombre de, quand je dis les années, de temps à temps ou le nombre de mois que vous avez passé dans l'entreprise. Si c'était un stage, si c'est un CDD, si c'est un CDI, ça dépend si ça vous porte préjudice ou pas. Donc, après le volet expérience professionnelle, vous avez le volet formation. La partie formation, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de mettre des formations qui sont utiles. Moi, je vois des gens qui ont le bac, qui mettent le bac, qui ont le BTS, qui mettent la BTS, qui ont la licence, qui mettent la licence, qui ont le master, qui mettent le master. Donc, après, ils se plaignent que leur CV ne tient pas sur une page. Non. Moi, je dis que quelqu'un qui a la licence, on suppose qu'il a validé son bac plus 2. Quelqu'un qui a un master, on suppose qu'il a eu son bac plus 2, son bac plus 3. À part maintenant, si comme moi, vous avez fait, après votre bac scientifique, vous avez fait une filière en économie, ensuite vous êtes revenu sur les ressources humaines. Moi, par exemple, c'est intéressant parce que j'ai voulu faire de l'économie, j'ai détesté, je suis allée en ressources humaines. Donc, vous dire que si tu parles d'économie, je peux comprendre, même si je n'aime pas. Ça a son sens. Mais par contre, j'aurais fait une licence en RH, un master en RH. Je ne sais pas pourquoi je mets la licence alors que le master englobe la licence. Je ne sais pas si vous voyez.
Yeah, c'est clair.
C'est quelques tips. Et ce que je veux dire au fait aux gens, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir un seul CV. On peut en avoir 4, 5, 6, 7, 8, 10. quand je postulais dans des sociétés où l'anglais était indispensable, j'avais un CV où, même si c'était dans des sociétés francophones, j'avais un CV où j'écrivais, où je mettais anglais, un bilingue en anglais. C'était important. Mais un CV où, dans une société où je vais pas faire une phrase en anglais, j'ai un autre CV pour ça. On peut avoir un CV en anglais, on peut avoir un CV en espagnol, on peut avoir un CV en français. On peut faire même un CV qu'on appelle le CV thématique pour des personnes qui, encore une fois, n'ont pas qui ont des expériences, des profils atypiques. Donc, qui ont une expérience en comptabilité, une expérience en ressources humaines, une expérience en gestion de projet. Pour des personnes là, vous faites un CV et vous, si vous présentez, par exemple, si vous postulez sur un poste en comptabilité, vous présentez vos expériences uniquement sur la comptabilité. Ensuite, vous pouvez faire un petit onglet pour dire « haute expérience professionnelle » et mettre les autres. En fait, le CV doit vous vendre. Et n'oubliez pas, j'aime bien le dire, on ne passe pas plus de 15 secondes sur un CV. Donc voilà. En concernant clair, la lettre de motivation...
En fait, je voulais dire juste dans le même sens que toi, en clair, le CV, c'est comme notre fiche marketing, en fait. Ça nous positionne sur le marché.
Voilà. Que ce soit lisible, que ce soit dans des infographies simples, à part si vous êtes graphiste ou si vous travaillez dans la communication, faire des trucs fantasy et tout ça, oui, vous pouvez. Mais voilà. Et il y a quelque chose que je veux demander aux gens d'arrêter de faire, je vous en prie. Arrêtez de faire des tableaux. Ça, je sais. Je vous assure que le jour où je vais trouver le coach qui fait ça aux gens, je vais lui dire, mais il est méchant. Parce que c'est pénible de lire un CV sous forme de tableau. C'est pénible, vous n'imaginez pas. C'est pénible. Et j'ai demandé à d'autres collègues qui travaillent dans des structures importantes, j'ai dit, mais quand est-ce que tu arrives? Elle me dit, mais son CV, c'est du n'importe quoi. Je dis, c'est un tableau. Elle me dit, comment tu as su? Je dis, mais c'est pas possible. Évitez de faire un CV sous forme de tableau. Si on vous a dit que c'est beau, au fait, c'est pas pratique. On met beaucoup plus de temps et quand vous avez beaucoup de CV à lire, c'est stressant, ça fait qu'on lit même, on passe dessus. Ouf, ça c'est un cri de cœur. Évitez. Par contre, faites des choses et je conseille, ça c'est le conseil, ça va être mon dernier conseil sur le CV. Demandez à quelqu'un, imprimez votre CV parce qu'il y a des gens qui n'impriment pas leur CV. Envoyez-vous votre CV sur une autre boîte mail parce que quelquefois, vous envoyez des CV qu'on n'arrive pas à lire, qu'on n'arrive pas à télécharger, qui sont sur des formats qu'on ne peut pas. Je conseille aux gens de faire des CV PDF. Le CV Word est has-been. Faites des CV PDF. Ça, c'est quelque chose que je veux dire. Le CV Word est has-been. Faites un CV PDF. C'est facile à télécharger. C'est facile. On n'est pas en train de version de Word, combien, Word, quelle année, Word, machin et tout. Faites des CV PDF. C'est beaucoup plus facile. Concernant la lettre de motivation, ce que je conseille aux gens, c'est que une lettre de motivation, elle est censée raconter une histoire. Je suis qui? Je suis qui? Je fais quoi? Je peux vous apporter quoi? Ou vous pouvez m'apporter quoi? C'est ça. Je suis qui? Je fais quoi? Vous pouvez m'apporter quoi? Je suis à l'écoute du marché. Quand? Voilà. C'est ça une lettre de motivation. C'est ça une lettre de motivation. On sait très bien que les gens ne se fatiguent plus pour écrire les lettres de motivation. Ils prennent une version toute faite. Internet. C'est pour ça que je fais partie des recruteurs qui, en vérité, j'ai d'autres façons pour juger la motivation. Mais si prenez le temps, corrigez les fautes sur les lettres de motivation. Il y a des gens qui sont très picky sur ces choses-là. Ne faites pas de fautes. La lettre de motivation où on est trop cool, ça dépend de la sensibilité de chacun. La lettre de motivation avec des formules de politesse un peu partout. Moi, c'est des choses qui me fatiguent un peu parce que ce n'est pas du tout naturel. Soyez-vous, voilà. C'est tout ce que je peux dire sur ces deux aspects-là. Désolée, on peut parler de ça.
Moi, j'aimerais revenir un peu sur le CV. Bon, sachant que on met en moyenne 15, que le recruteur, par exemple, met en moyenne 15 secondes sur le CV, est-ce que c'est pertinent de rédiger, par exemple, au début, au top de son CV, est-ce que c'est pertinent de rédiger un résumé? Et si c'est le cas, comment est-ce qu'il faut le rédiger, ce résumé-là?
Moi, je dis un résumé, ça... Moi, en tout cas, je ne suis pas très fan des résumés en début de CV. Je suis plutôt fan du titre du CV, c'est-à-dire expérience, intitulé de carrière qui vous intéresse. Je dis n'importe quoi, si vous aspirez à être DRH dans une structure, vous pouvez rechercher un poste de DRH, c'est clair. Au moins, on sait que si ce n'est pas un poste de DRH, on ne vous appellera pas. Ou recherche un poste de DRH, 10 ans d'expérience, vous mettez 2-3 mots-clés, gestion de carrière, talent management, recrutement, formation, voilà. C'est simple, c'est clair. Mm-hmm. Au moins, vous résumez votre parcours comme ça. Faire des phrases, ça alourdit le CV et en plus, ça vous vole de l'espace. Par contre, si vous envoyez un CV par mail, vous avez la possibilité dans le corps de mail de faire un bref résumé de vos compétences. Ce n'est pas une, lettre de motivation. Moi, je suis très fan de ces quelques lignes. Au lieu de dire « Bonjour madame, prière de recevoir mon CV », vous faites un résumé de 3-4 lignes maximum que vous envoyez au recruteur, ça sert de résumé. Maintenant, pour ceux qui ont envie de faire un résumé, soyez bref.
Juste pour continuer un peu sur la lancée, est-ce que par contre, sur le profil LinkedIn, ce serait intéressant de mettre un résumé? Parce qu'on voit qu'on a la possibilité d'en faire un avant de passer aux expériences professionnelles.
Ah oui, c'est important. C'est vraiment la chose à faire. C'est très important parce que la beauté de LinkedIn, c'est que votre profil LinkedIn, c'est un CV. Mais comme c'est un réseau social, votre profil LinkedIn est censé parler de vous. Et je pense que la partie résumée, c'est vraiment le moment de parler de vous dans vos termes, avec votre sensibilité et avec des choses que vous ne pouvez pas faire sur une lettre de motivation. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas forcément parler de vos passions, vous ne pouvez pas forcément parler de votre vie de blogueur, vous ne pouvez pas parler de votre vie d'activiste, de féministe, vous ne pouvez pas parler de votre combat pour les enfants qui sont atteints du cancer, alors que vous pouvez le faire avec votre résumé. Au fait, le résumé sur LinkedIn va mettre en avant des aspects de votre personnalité qu'on ne retrouvera pas forcément en lisant votre CV ou en lisant votre lettre de motivation. Parce que la lettre de motivation reste toujours... Pour vous expliquer un peu comment est-ce que le résumé est important, je vais vous lire brièvement mon résumé. Le résumé que j'ai sur LinkedIn.
OK.
J'ai mis brièvement... Passionné de ressources humaines, pour moi, la véritable richesse d'une entreprise se trouve dans son capital humain et pas. Amoureuse des réseaux sociaux, LinkedIn et Facebook m'ont permis de relever des défis que vous n'imaginez même pas. Blogueuse à temps partiel, j'anime une page de 10 000 fans où j'encourage les femmes africaines modernes à s'assumer tout en gardant un pied dans la tradition. Je crois que toutes les relations professionnelles sont bonnes à prendre. J'ai du mal à comprendre les personnes qui appuient sur le bouton « I don't » dont je ne connais pas sur LinkedIn, quand on sait que le but premier de cette plateforme est d'agrandir son réseau. Enfin, imaginez comment doivent se sentir aujourd'hui les personnes qui ont regardé Mark Zuckerberg hier avec mépris. Et je conclue en disant « Recrutement, blogueuse, ambassadrice, chroniqueuse d'Afrique femme, activiste. » C'est moi, c'est ma personnalité. Dans ce résumé-là, vous allez voir que sur les problématiques de la femme, Marlène est très engagée. Vous allez voir que Marlène est une passionnée de ressources humaines. Vous allez voir de relations même humaines, de contacts. Vous allez voir que Marlène est très active sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn et autres. Voilà, c'est ma personnalité. C'est des choses que je ne pourrais pas faire dans ma lettre de motivation. Quelqu'un qui, par exemple, moi, j'aime beaucoup ce que vous faites avec Ivoire Talent. Vous m'avez sollicité pour parler aux étudiants de l'INPHB. Voilà, c'est des choses que vous pouvez mettre dans le résumé parce que vous encouragez des jeunes Ivoiriens, des jeunes Africains à développer leurs compétences, à cultiver l'excellence et tout ça. C'est des choses dont vous pouvez parler dans votre résumé. Donc, encore une fois, dans un monde où on se dit on est plus trop en train de parler de quotient intellectuel, on parle énormément de quotient émotionnel, on parle de soft skills, votre résumé va permettre à un recruteur de déceler vos soft skills.
C'est clair, c'est clair.
C'est très intéressant, très très intéressant. Et là, je suis touché. Je prends le point de mettre à jour le résumé sur LinkedIn tout de suite.
Yeah, c'est clair, c'est clair. J'ai beaucoup aimé la partie intelligence émotionnelle parce que c'est un élément très important. Lorsqu'on parle de soft skills, c'est vraiment important. Mais j'aimerais revenir rapidement sur les contacts pour recommandations. Si le recruteur n'a pas demandé ça, est-ce que c'est nécessaire de les mettre?
Ça son poids.
OK.
Ça son pas, il faut le dire, ça son poids. Par contre, on ne met pas n'importe qui en recommandation. Déjà, il faut prendre la peine de consulter la personne, de lui dire que vous allez mettre son nom ou quelquefois son numéro. Ensuite, il faut prendre la peine de choisir des personnes qui ont un poids suffisamment, qui ont du poids. C'est pas si vous on
Ouais,
met pas son collègue en recommandation.
c'est clair.
On met pas son collègue. On
Soit
peut
son
mettre un
N plus
mentor,
1.
on peut mettre son N plus 1, mais pas forcément son. Ça dépend de la relation que vous avez eue avec votre N plus 1. Vous pouvez même mettre votre N plus 2 directement parce que voilà, vous vous entendez beaucoup mieux avec la personne, parce que la personne vous a coaché, parce que la personne est votre mentor. Vous pouvez mettre par exemple quelqu'un qui est connu, je dis n'importe quoi, quelqu'un peut travailler dans X société et puis mettre un DRH d'une autre société parce que cette personne a pris le temps d'investir dans son coaching, dans du mentorat vis-à-vis d'elle. Vous pouvez mettre une personne suffisamment célèbre, mais il faut mettre des personnes qui déjà, moi je pense, hein, qui vont vous faire de belles références et qui ne vont pas vous plomber. Vu des personnes, vous appelez pour faire des références. Et puis, en gros, ils ne disent pas que vous n'êtes pas bien, mais ils ne disent pas que vous êtes bien. Je ne sais pas si vous comprenez, parce que le but du background check, c'est vraiment d'apporter un poids à votre candidature.
C'est clair. C'est clair.
Voilà.
Et je suis très touché même que tu aies parlé de background check parce que, enfin, avant que je quitte la Côte d'Ivoire, je pense on ne faisait pas de background check là-bas lorsqu'il y avait un processus de recrutement. Mais par contre, aux États-Unis, ça se fait pour n'importe quel processus de recrutement. Donc,
Ah,
est-ce qu'actuellement, ça se fait
on le fait.
C'est pas très convaincant.
Non, on le fait. En fait, on le fait pas sur tous les postes.
OK.
On ne le fait pas sur tous les postes, mais on le fait quand même. Ça dépend des enjeux. Ça dépend des enjeux du poste, mais on le fait. Je rigole parce que tout le monde, on ne le fait pas systématiquement. Il y a des cabinets, il y a certains cabinets de recrutement qui le vendent, qui font automatiquement des background checks. Ils vont checker votre activité sur les réseaux sociaux, ils vont checker votre Instagram, ils vont checker votre Facebook. Je sais que les organisations internationales le font. Parce que pour certaines organisations internationales, il ne faut pas avoir un certain niveau, il ne faut pas être trop politiquement engagé. Donc, ils vont prendre le temps. Donc, même s'ils sont à Abidjan, ils vont prendre le temps de vérifier si vous ne passez pas vos journées à insulter le pouvoir, quoi, sur les réseaux sociaux. Donc, ils le font. Donc, on fait le background check. Par contre, quand je dis background check, ça peut, par exemple, authentifier vos diplômes. Authentifier vos diplômes, on va appeler vos universités. Pour ceux qui font les études à l'étranger, on va appeler les écoles pour savoir si vous êtes vraiment dans leur registre d'anciens d'alumni, parce que les gens viennent, il y a des choses, hein, il y a des gens qui
Ah, il y a
viennent
des
avec des
choses qu'on
diplômes,
voit,
alors,
ah, franchement.
viennent avec des diplômes, avec des écoles, alors qu'ils n'ont jamais fréquenté ces écoles-là. Donc, on le fait encore une fois sur des postes, sur certains postes, on le fait systématiquement. On va même
D'accord.
appeler ouais, on le fait. Donc, quelquefois, vous démissionnez et puis vos directeurs sont au courant. Ah, 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 ah.
Ah, c'est ça le problème. C'est ça parce que c'est comme si tu es dans un processus. Le processus n'est pas encore arrivé à terme. Et puis bon, on informe l'autre entreprise que bon, est-ce que tu connais telle personne? Ça, c'est compliqué.
Le background check se fait de façon professionnelle.
Ok.
Je fais un background check. Je fais un background check. Même si c'est votre boss, c'est que on est suffisamment proche pour que je vais prendre la peine parce que on fait pas le background check à n'importe quel moment. Déjà, on fait le background check au moment où on est plus ou moins sûr de prendre la personne. Ça, c'est la première des choses. On fait pas le background check sur tout le monde parce que en Côte d'Ivoire, par exemple, on dit le monde est petit, mais c'est vraiment en Côte d'Ivoire que je me suis rendu compte que le monde est petit. Parce que tout le monde se connaît. Donc, on prend des informations. On ne va pas prendre forcément des informations chez votre N plus 1 directement. Je ne sais pas si vous comprenez. On va prendre peut-être des informations chez DRH. On va prendre des informations chez quelqu'un d'autre. On va prendre des informations chez une personne avec qui vous avez travaillé et qui n'est pas forcément votre N plus 1. Par exemple, sur les problématiques de gestion de projet, j'aime bien le métier de l'IT parce que j'ai travaillé longtemps sur ce secteur-là. Vous avez travaillé sur un projet où il y avait plusieurs entreprises, il y avait plusieurs interlocuteurs. On va prendre le lead, on va prendre un background check sur votre lead technique qui peut-être n'était pas de votre société. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Ça aussi, il faut le dire. On ne fait pas n'importe quoi.
C'est clair.
Voilà.
La réponse me permet de rebondir parce que là, on a parlé de background check. Et de façon générale ou bien de façon plus détaillée, quels sont les éléments qu'un expert en recrutement check lorsqu'il doit faire un nouveau recrutement? En d'autres termes, quels sont les paramètres sur lesquels les experts en ressources humaines en recrutement se basent pour détecter des perles ou bien pour détecter des talents et recruter de nouveaux employés?
Ok, déjà, pour chaque poste, dès qu'un recrutement est validé, et rentre dans le processus de validation dès qu'il est validé. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait ce qu'on appelle un brief de poste, que ce soit en cabinet, que ce soit en société et tout ça. On fait un brief de poste ou un brief de poste, donc c'est un accord entre la personne côté HR, côté DRH qui est en charge du recrutement et le métier, donc le N plus 1 et le N plus 2. Quelles sont les compétences clés que cette personne-là recherche? Parce que nous, on recrute, la direction des ressources humaines recrute. Mais au day-to-day, c'est le manager qui va travailler avec cette personne. Donc, on va demander quelles sont les compétences clés déjà techniques. Ensuite, en fonction de l'équipe, en fonction de l'esprit, des valeurs de l'entreprise et en fonction même de l'environnement même de la direction. Moi, je dis toujours aux gens que c'est vrai qu'il y a un esprit d'équipe au niveau même global entreprise, mais il y a aussi un esprit au niveau direction. Chaque direction a son feeling, chaque direction a son... Donc, qu'est-ce qui est important pour le manager? Qu'est-ce qui est important pour les coworkers? Quel esprit qui règne au sein de l'équipe? Dans quel contexte? Quels sont les soft skills qui sont recherchés en fonction du niveau du poste? Voilà. Donc, on va avoir un brief de poste. Donc, le brief de poste va nous permettre ensuite, avec à l'appui la fiche de poste, parce que dans les sociétés sérieuses, chaque poste a une fiche de poste, et de faire une annonce. Voilà. Donc, ça dépend des postes, mais il faut savoir qu'on recherche toujours des compétences techniques, donc des compétences opérationnelles, donc un savoir-faire. On recherche un savoir-être également. Et on cherche des aptitudes. Donc, des choses que vous n'avez, qui ne sont pas forcément développées chez vous, mais qui vont vous permettre de faire face à des situations et qui vont vous permettre de monter en compétence ou d'évoluer au sein de la structure. Voilà. Donc, ça, c'est les trois choses. Ensuite, évidemment, les aspects salariales, parce qu'on ne recrute pas, chaque entreprise a un budget de recrutement. Donc, les aspects salariales, donc on est obligé de checker est-ce que nous, par rapport à votre positionnement en termes de salaire aujourd'hui, est-ce que nous, on peut vous faire une proposition plus élevée, comment on fait? En général, ce sont ces paramètres-là qu'on regarde. Et surtout, est-ce que vous avez, nous, on recherche franchement, on ne recrute pas des gens pour qu'ils démissionnent dans 6 mois, dans 1 an. On recherche des personnes qui vont s'inscrire dans la durée. Voilà.
J'aimerais revenir un peu sur les aptitudes. Parce que par rapport aux compétences opérationnelles, je pense qu'elles sont plus ou moins claires. Ça peut partir de notre diplôme ou bien de notre expérience professionnelle antérieure. La grille salariale ou bien la prétention salariale aussi, on peut jauger cela avec le salaire qu'on avait avant de postuler. Mais pour les aptitudes, qu'est-ce qu'on entend en fait? Qu'est-ce que tu entends par aptitude et comment vous décelez ça en tant qu'expert en recrutement?
Ok, déjà, il y a aujourd'hui, avec l'évolution, avec les exigences en termes de capital humain, de gestion du capital humain des entreprises, on fait des tests en fait. On a la possibilité de faire des tests, donc des tests psychotechniques qui nous permettent de faire ressortir les grands traits de caractère et de personnalité de quelqu'un. Donc, vous allez, certaines, on a des sociétés, vous avez des sociétés qui, en fonction, vont voir des experts, donc des psychologues, des sociologues, des HR. On a des entreprises qui sont spécialisées dans la confection de tests pour déterminer les quotients émotionnels d'un individu et qui vont soit nous proposer des tests standardisés en fonction de ce que nous on recherche, soit qui vont concevoir des tests qui nous permettront de ressortir les traits de personnalité par rapport à la culture d'entreprise de la société en question. Donc, les tests sont un gros moyen de déceler le savoir-être. Ensuite, les réseaux sociaux. L'engagement de la personne sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Ensuite, l'entretien de recrutement nous permet de déceler les savoir-être. C'est une combinaison d'outils, en fait. Je crois que la science humaine n'est pas des sciences exactes, mais c'est une combinaison d'outils qui nous permet de dire ben, telle personne a des aptitudes. Telle personne a des aptitudes, se positionne toujours en leader. Telle personne est quelqu'un qui s'essaie à beaucoup de choses. Telle personne, de par la variété des sujets sur lesquels il intervient, en dehors même du contexte professionnel et tout ça. Donc voilà, donc c'est vraiment, il y a beaucoup de psychologie. Il y a de la psychologie, il y a de la sociologie. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qui nous permettent de... Mais c'est vrai que de plus en plus, on s'appuie énormément sur les tests.
D'accord.
Les tests de personnalité. Et à la fin de ça, et les tests de personnalité nous donnent des pistes de questions, des pistes de réflexion. Et l'entretien de restitution des tests de personnalité nous permettent de creuser et de mieux cerner la personnalité de quelqu'un.
D'accord. C'est qui est vraiment plus clair.
En clair, je préfère que vous vous basiez sur les tests de personnalité parce que si vous devez regarder l'activité sur les réseaux sociaux, bon, certaines personnes comme moi, par exemple, je pense que je n'allais pas être pris dans certains endroits parce que pour le corps de métier dans lequel je suis, la cybersécurité, la privacy, on sait un peu comment ça se passe, l'environnement online. Donc, on préfère plus ou moins garder le strict minimum sur tout ce qui se passe online. Donc, bon, je pense que...
Mais par contre, si on veut recruter quelqu'un qui va travailler sur la cybersécurité, on va chercher quelqu'un qui ne parle pas comme moi.
Ah, d'accord. OK, c'est clair. Ce qui est clair.
Oui, je veux dire qu'en fonction des métiers, wow, vous n'imaginez même pas, en fonction des métiers, moi, j'aurais peur de quelqu'un qui est actif, parce que moi, je suis très active sur LinkedIn, quelqu'un qui travaille sur la cybersécurité qui est autant actif pour moi, non, c'est pas possible.
C'est dangereux, en fait.
Donc, voilà, on est très... En fonction des métiers, oui, ça, c'est très important. Merci de l'avoir souligné, Marc-André. C'est très important. En fonction de vos corps de métier, on ne fait pas... Non, c'est pas possible. C'est vraiment adapté à vos corps de métier. C'est que même, quelquefois, les tests sont adaptés même à vos à votre contexte, à votre culture même. Hein. En ressources humaines, il y a une filière des ressources humaines que j'aime énormément, le management interculturel. Waouh, c'est fou. Et moi, j'ai eu la chance de vivre dans 3 pays différents, donc sur 3 continents différents. Je vous assure, ce qui est vrai au Texas n'est pas vrai en France, n'est pas vrai à Abidjan.
C'est clair. C'est clair.
Alors, pas du tout les mêmes choses. Donc, on ne peut pas se permettre en fonction des contextes. On s'adapte.
Maintenant, là, il y a une question qui est très importante. C'est quels sont les critères sur lesquels vous vous basez pour recruter un directeur ou un sous-directeur? Parce que ça, c'est le goal de tout un chacun, c'est de devenir directeur un jour. Quels sont les critères sur lesquels vous vous basez?
Waouh! Déjà l'expérience.
OK.
Déjà l'expérience et le management et le leadership pour les sociétés sérieuses. Mm-hmm. Vous savez, pendant longtemps, on a estimé que quelqu'un qui était bon techniquement méritait d'avoir un poste de manager ou de directeur. Mmh. Et il y a beaucoup qui ont fait des erreurs en termes de gestion de capital humain parce que vous avez des personnes qui sont brillantes, mais vraiment qui délivrent véritablement, qui délivrent bien et qui ne peuvent pas être manager. Mais c'est fou! Ils ne peuvent pas accompagner quelqu'un, ils ne peuvent pas monter en capacité quelqu'un, ils ne peuvent pas... Non, ce n'est pas possible. Donc, de plus en plus, il y a un gros volet leadership. Il y a un gros volet leadership qui nous permet de recruter un directeur ou un sous-directeur. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est brillant techniquement, que la personne fait les meilleurs chiffres qu'il va être directeur. Non, c'est plus comme ça. En tout cas, dans les sociétés sérieuses, c'est plus comme ça. C'est comment est-ce que la personne maintient la cohésion au sein de l'équipe, comment est-ce que la personne accompagne les juniors, comment est-ce que la personne a accompagné un stagiaire, comment est-ce que la personne a accompagné quelqu'un qui était en difficulté, comment est-ce que la personne, en termes de prospection, en termes, je dis prospection, de projection, en termes de stratégie, c'est toutes ces choses-là qui nous permettent de recruter. Et quelle est, qu'on va faire le background check, quelle est la moralité même de cette personne au fait? Le contexte pays, parce que moi j'ai la chance d'entendre plusieurs personnes au fait qui ont fait les études à l'étranger, qui veulent tout de suite se positionner en termes de directeur parce qu'ils ont fait des études à l'étranger, parce qu'ils espèrent qu'ils estiment, parce qu'ils ont travaillé à l'étranger, parce qu'ils estiment qu'ils connaissent mieux que les autres, parce qu'ils étaient à l'étranger. Le poste de directeur a un gros contexte pays, a un gros contexte régional. Ça, il faut pas manquer de le dire. On peut venir, on peut penser qu'on va venir révolutionner. Mais il faut comprendre les mentalités.
Il faut maîtriser l'écosystème, en fait.
L'écosystème, les mentalités locales. Donc, c'est un peu un cri de cœur à toutes ces personnes-là qui sont à l'étranger, qui ont passé toute leur carrière à l'étranger, qui estiment qu'ils vont venir comprendre. Ces personnes-là, la plupart du temps, font des échecs, des fiascos, parce qu'ils ne comprennent pas la mentalité locale et parce que ça prend du temps de s'adapter à la mentalité locale. Voilà.
Une question qui revient souvent, des fois on entend ça hein, chez nos cousins, nos frères, nos amis, qui se plaignent qu'ils sont en CDD et que l'entreprise attend forcément 2 ans avant de les faire passer de CDD à CDI. Et des fois même, semble-t-il que ces personnes qui sont en CDD ou bien qui sont placées par d'autres entreprises annexes, on paye en fait à ces entreprises-là, disons, la même chose qu'on paierait pour un CDI. Mais quand même, l'entreprise préfère payer ce montant-là plutôt que de donner directement un CDI à ces personnes. Donc la question en fait derrière, c'est pourquoi est-ce que les entreprises ont tendance à plutôt conserver les gens en CDD pendant quasiment 2 ans avant de les faire passer en CDI? Et d'ailleurs, même des fois, on fait d'abord 6 mois, voire 1 an de stage, ensuite 2 ans de CDD, et c'est après ça qu'on les fait passer en CDI. On se demande pourquoi.
Ok, déjà, le CDD, c'est un contrat à durée déterminée. En général, le CDD, tous les CDD ne sont pas censés se transformer en CDI. Ça, il faut être clair. Moi, quand j'accompagne des jeunes diplômés, j'aime être franche dans mes relations avec les jeunes. Donc, je leur dis, déjà, le CDD ne s'appelle personne parce que, pas parce qu'une entreprise vous prend en CDD qu'ils sont obligés de vous prendre en CDI. Le CDI vient répondre à un besoin momentané, premièrement. Le CDI, par contre, c'est un contrat à durée indéterminée et c'est un contrat contraignant. Que vous le vouliez ou non, à part si vous avez identifié un poste où vous avez besoin d'une ressource sur une longue période, ça ne sert à rien de prendre un CDI. En fait, on ne prend pas un CDI pour récompenser les efforts de quelqu'un. Non, on prend un CDI parce que dans notre organisation, qu'il pleuve ou qu'il neige, on a besoin d'un DRH.
OK.
Voilà. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on a besoin d'un gestionnaire de projet IT. Qu'il pleuve ou qu'il neige, on a besoin d'un développeur d'application. Je prends un exemple comme des sociétés. Vous demandez à une banque de prendre des développeurs en CDI. À quoi ça sert pour une banque de prendre des développeurs en CDI? Par contre, vous prenez une société de services informatiques qui va travailler pour plusieurs problématiques IT. Elle a besoin de prendre des développeurs en CDI puisqu'il faut des gens pour coder tout le temps pour eux. Je ne sais pas si vous comprenez.
C'est clair.
Alors que si vous prenez une banque, elle va peut-être développer l'application pour un moment. Ensuite, elle va sous-traiter toute la gestion technique de cette application-là. Elle n'a pas besoin de prendre quelqu'un en CDI. Moi, je pense qu'il faut que les responsables ressources humaines soient francs avec les gens. Soient francs en disant à cette personne-là, on te prend en CDD, mais derrière, mon coco, je suis désolée, mais c'est un poste qui a pouvoir en CDD. On n'a pas le budget pour mettre quelqu'un en CDI sur ce poste, tout en sachant que le CDI, il y a des frais de la mutuelle, il y a des frais de je ne sais quoi, il y a tellement d'autres frais en dehors de vos salaires qui s'attachent au CDI, on ne pourra pas supporter ça sur le long terme. Voilà, donc je pense que c'est la franchise. Par contre, dans certaines entreprises, avant de vous passer en CDI, même si le poste est identifié pour être un CDI, quand vous êtes junior, jeune diplômé, on vous met en CDI. Et là, je vois des jeunes diplômés qui sont frustrés. Je leur dis, en Côte d'Ivoire, par exemple, les gens attendent. Moi, je suis choquée quand je vois des personnes qui, leur première expérience professionnelle, c'est à partir du master. C'est-à-dire, ils ont eu le bac, ils ont fait une licence, surtout ceux qui sont dans les cursus universitaires où on n'oblige pas, les, par exemple, pour le BTS, on vous oblige à faire un stage de fin d'études pour valider votre BTS. Mais par contre, ceux qui sont à l'université, ils n'ont aucune obligation de faire un stage de fin d'études, à part en année de master, si je ne me trompe pas. Et ça dépend même du master. Donc, la personne est en train de rester 5 années à l'université sans ne serait-ce que avoir fait une petite forme, un petit stage pratique, et il se plante dans une entreprise. Au bout de 6 mois, on lui propose un CDD, il se fâche. Je dis, mais en fait, il est simple. En tout cas, moi, je sais que les jeunes diplômés, je les secoue. Je dis, mais attendez, moi, je suis désolée. Tu ne peux pas, au bout de 6 mois d'expérience, espérer avoir un CDI avec une rémunération de quelqu'un qui, en première année d'université, aura fait un stage, en deuxième année aura fait un stage, en troisième année aura fait un stage, en quatrième année aura fait un stage, en cinquième année aura fait un très beau stage. Mais toi, c'est maintenant, master là, que tu vas venir apprendre ce que tes camarades ont appris en bac plus 2 ou en licence. Mais on est obligé de te mettre en CDD parce qu'on prend un gros risque avec toi. On sait que tu as des aptitudes, on veut te faire confiance, mais mon coco, il faut faire tes preuves. Puisque tu n'as fait tes preuves nulle part.
C'est clair.
En fait, je dis, mais quelquefois les gens parlent, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que si une entreprise vit parce qu'elle rentabilise, donc, quoi? Mais moi je disais aux gens, je vais donner mon exemple. Quand en dernière année de master chez nous, on avait à l'ISG Paris, on avait la possibilité soit de faire un stage de fin d'études de 1 an ou d'aller en exchange student à l'étranger, en Espagne, en Chine et tout ça. Les gens étaient tous excités, machin, en train de parler de leur truc à je sais pas où, dans quelle ville asiatique et tout ça. Moi, je me suis assise, j'ai dit, je veux le parcours où on fait tous ces cours pratiques en quatrième année. Et puis en cinquième année, je crois que tu as, je sais même plus, 2 cours machin et tout, tu as juste ta thèse. Et puis toute l'année, tu es en stage. Mm-hmm. Ah, mais tu n'es pas intéressé par l'exchange student. J'ai dit, moi, j'ai été foreign student, je suis fatiguée. Je ne suis pas là dans le foreign. Dans un pays, ce n'est pas mon pays, qu'on le veuille ou non, la France m'adopte ou pas, ce n'est pas mon pays, avec mon nom, avec mon visage noir. Ce qui va faire parler, qui va faire la différence entre moi et puis l'autre, là, c'est parce que moi, pendant 1 an, je serai en train de bosser dans un cabinet de chasseurs de têtes. Et c'est ce que j'ai fait.
Bien vu.
Mais quand,
bien vu.
Mais quand j'ai fini là, mais moi j'ai signé mon... Bon, quoi que je crois en Dieu, j'ai eu la grâce de dire, mais quand j'ai fini là, j'ai eu mon CDI pendant que toi t'es pas en CDD.
C'est clair.
Mais parce que j'ai payé le prix. D'autres ont eu d'autres choses, d'autres ont eu, je sais pas, des expériences en Chine. Je dis, après je vais aller en Chine, après je vais aller à Dubaï, tout ça, je vais aller, c'est pas un problème. J'aurai l'occasion d'aller. Le plus important, c'est d'avoir l'expérience, parce que c'est l'expérience que tu viens vendre à une entreprise. Donc, aux jeunes qui vous suivent, désolé, au lieu de dormir pendant 3 mois de vacances, allez proposer vos services dans une société, dans une TPE, dans une PME, dans une association. Apprenez à valoriser ce que vous avez appris à l'école.
C'est clair, vous pouvez venir travailler aussi avec Ivoire Talent. Hein. On prend des stages.
Exact.
Même dans les associations, je dis, on est tellement riche du monde associatif. Les gens n'imaginent même pas ce qu'on apprend dans les associations. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ne sont pas en train de chipoter. Ils ont besoin de gens pour travailler. Mais si vous ne vous formez pas, parce que dans d'autres pays, on fait ce qu'on a. En France, on fait l'alternance quelquefois. Il y a des sociétés, il y a la formation initiale, il y a la formation en alternance ou en apprentissage. Tu as 1 semaine à la et 1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise, ça te permet de te former. Mais les compétences là, on acquiert les compétences sur le terrain. Mm-hmm. Aujourd'hui, vous êtes bien content de m'entendre, Marc Landry, tu es bien content d'être expert en cybersécurité. Franck, on parle de toi, donc j'ai son projet et tout, mais attends, tu n'es pas né avec la gestion de projet. Personne n'est né avec ses compétences. On a appris quelque part. Mm-hmm. Maintenant, il y a des entreprises qui sont un peu malhonnêtes. Moi, je dis toujours, il y a des entreprises qui sont un peu malhonnêtes. ils sont un peu malhonnêtes. Ils aiment bien les CDD, ils vous font des promesses et tout ça. Mais bon, encore une fois, il faut savoir dans quelle entreprise aussi il faut partir. Je ne sais pas. Les malhonnêtes, là, c'est juste pour un temps pour se faire de l'expérience et puis partir. Quoi.
Tranquille.
Effectivement, on peut voir la chose comme ça. Ouais.
Je termine en disant, quand on est jeune, là, il ne faut pas avoir peur de se faire exploiter. Ce n'est pas une honte. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'ai dit, quand on commence, on est mal payé. On est mal payé. Quelquefois, on a la boule au ventre. On travaille deux fois plus que certaines personnes parce que ces personnes-là... mais ça nous forme, ça nous forge.
Exactement.
Moi, j'ai dit, entre quelqu'un qui est en train de m'exploiter et puis quelqu'un qui me donne un bagage, qui me donne des compétences, ben, je préfère que celui qui me donne forcément des millions et puis au fait, dans 2-3 ans, je perds tout mon savoir parce que je n'aurais rien appris avec lui.
C'est tellement bien dit. Merci beaucoup, Marlène. Nous allons marquer une pause là et nous reprendre la semaine prochaine pour la suite. C'était Marc Landry et Franck Fadé pour le podcast Ivoire Talent. Merci et à bientôt.